Habemus Papam.
Fin du XIIe siècle. C'est le Moyen Âge, mais l'Europe est en pleine mutation, quand Lothario di Ceni est élu pape sous le nom de Innocent III. Le père Bruno Valentin, auteur avec Mgr Di Falco d'un ouvrage intitulé « Ces papes qui ont fait l'Église », nous parle du contexte historique.
Entre le XIe et le XIIIe, la population de l'Europe est multipliée par deux. Les échanges à la fois économiques, culturels, se multiplient. Et on assiste surtout à l'émergence d'un nouveau monde, qui est le monde des villes. Tout ce bouleversement à la fois culturel, économique, change le fonctionnement de l'Europe, avec en particulier un mouvement d'unification, une mobilité des gens de plus en plus accrue. Et dans ce monde qu'on pourrait déjà appeler finalement un monde globalisé, eh bien le pape se retrouve une institution pivot, parce que le pape finalement est plus à même que les épiscopats locaux de gérer et de réguler ces nouvelles relations à la fois plus horizontales et plus transnationales.
Ce nouveau rôle, Innocent III va le jouer tout d'abord en lançant la quatrième croisade, une croisade qui se termine bien mal.
La quatrième croisade est partie de Venise en 1202, dans le même esprit que les trois précédentes, c'est-à-dire pour la libération des lieux saints. Et effectivement, elle s'est achevée en 1204 par le sac de Constantinople, qui n'était ni l'objectif ni le désir d'Innocent III, mais simplement, Innocent III avait confié l'exécution militaire de la croisade à des barons, notamment vénitiens, qui ont vu l'occasion de s'enrichir et qui ont tenu à faire étape à Constantinople pour en récupérer toutes les richesses.
Autre épisode noir, la lutte contre les Cathares.
Il appartient à Innocent III d'encourager les ferments de rénovation et d'intervenir contre les ferments de déviance et d'hérésie. La gestion du conflit des Cathares, de l'hérésie albigeoise, témoigne de cette capacité nouvelle du pape de gérer des problèmes qui échappent aux épiscopats locaux, puisqu'effectivement, c'est son légat qui va gérer la lutte contre les albigeois en son nom dans le sud de la France. En deux mots, l'hérésie cathare, c'est une forme d'élitisme spirituel. Pour les Cathares, l'évangile est une morale d'une très grande exigence, destinée à une catégorie très, très réduite de la population, qui sont des purs. On arrive finalement à une espèce de hiérarchisation de l'espèce humaine qui détruit toute l'universalité de l'évangile. L'évangile n'est plus pour tout le monde, il est pour une élite. Mais c'est une page très noire de l'histoire de l'Église et de l'histoire de France d'ailleurs, en grande partie à cause de l'imbrication des enjeux politiques et économiques dans le conflit religieux. Parce que les barons du nord de la France vont vouloir profiter de cette croisade contre les albigeois pour faire main basse sur les ressources du sud. Et la violence qui va se déployer dans la guerre contre les Cathares très largement échappe à Innocent III et à l'inquisition religieuse.
Si le pape se heurte à l'hérésie cathare, il défend au contraire les mouvements mendiants qui se développent au même moment.
C'est lui qui, en 1210, donne l'accord à saint François et à ses premiers compagnons pour vivre la nouvelle forme de vie évangélique qu'ils ont envie d'essayer. C'est lui aussi qui, 4 ans plus tôt, en 1206, a donné un premier encouragement, non encore formel, mais un premier encouragement quand même au fils de Saint-Dominique. C'est un des traits caractéristiques du pontificat d'Innocent III que d'avoir voulu encourager les ferments de renouveau dans l'Église, en s'appuyant sur les ordres mendiants et à travers eux, en animant finalement lui-même l'activité missionnaire de son temps, Innocent III illustre à quel point le pape est au service de la catholicité de l'Église. Pas seulement de son unité, mais aussi de sa catholicité, c'est-à-dire de son rayonnement universel et de l'annonce de la plénitude de l'Évangile. Innocent III a bien compris que ces ordres naissants, même s'ils sont très contestés par les structures locales, sont un ferment de mission dont l'Église ne pourra pas se passer.
Mais Innocent III est aussi à l'origine du Concile de Latran.
C'est le plus important concile du Moyen-Âge, mais c'est même plus qu'un concile. C'est une espèce d'assemblée générale de la chrétienté médiévale. Parce que tout ce que la chrétienté compte d'autorité temporelle et spirituelle, tout le monde est au concile de Latran IV et qu'au plan politique, il a tranché un certain nombre de conflits qui, de fait, déchiraient la chrétienté de l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'au plan, par exemple, des rapprochements avec les églises d'Orient, qui était une des grandes préoccupations d'Innocent III, ça, ce sera pas suivi de beaucoup d'effets. Maintenant, au plan plus théologique, le concile de Latran IV a posé un certain nombre de jalons très importants pour la théologie, codifiant en particulier le rapport à l'analogie, condamnant un certain nombre de thèses en matière de théologie trinitaire. Enfin, c'est un concile qui a cadré la plupart des grands débats de son temps.
À cette époque charnière, Innocent III va aussi faire évoluer le rôle de la papauté.
Innocent III va, d'une manière générale, faire un déploiement très important à la fonction du successeur de Pierre. Il est le premier, Innocent III, à avoir, par exemple, revendiqué pour lui-même de manière exclusive le titre de vicaire du Christ. Un titre qui, avant lui, était un peu un titre générique, qui se donnait aux évêques, aux rois. Et Innocent III va revendiquer ce titre pour lui-même parce qu'effectivement, il a une conception nouvelle de son rôle de pape qui est véritablement la tête de l'Église. Et étant tête de l'Église, il a vocation, je dirais, comme le Christ tête de son corps, à donner à l'Église l'impulsion fondamentale. Alors c'est vrai que Innocent III est à l'origine d'une conception très monarchique de la papauté, mais d'une manière encore très équilibrée, en symbiose avec les attentes de son temps. C'est après lui que l'on va absolutiser cette conception monarchique de la papauté et que surtout en face, les pouvoirs séculiers vont eux aussi avoir des revendications d'indépendance de plus en plus absolue. Et donc après lui, effectivement, l'absolutisme pontifical va se heurter beaucoup au souverain temporel. Mais à l'époque d'Innocent III, cette façon d'envisager le rôle du pape de manière effectivement monarchique est une faction encore assez équilibrée et bien admise.
C'était le père Bruno Valentin, auteur avec Mgr Di Falco d'un ouvrage sur « Ces papes qui ont fait l'Église ».